Je voudrais voir donc avec vous la première épître de Pierre. Mais je voudrais d'abord vous présenter Pierre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'appellent Pierre ici, il y en a toujours une série. Mais je voudrais vous présenter le Pierre dont il est question dans ce merveilleux texte. Car lorsque nous lisons les évangiles, nous sommes tout de suite frappés par le caractère et la personne, la personnalité de ce disciple Simon, fils de Jonas, et qui s'appellera Pierre. Personnage attachant avec qui on peut s'identifier si souvent. Quelques regards en arrière, quelques pas en arrière pour le suivre depuis son appel. Il est au bord du lac, il est pêcheur, au bord du lac de Galilée avec ses amis, son frère André. Et il y a quelque chose qui va démarrer dans sa vie et qui a été la marque, le point de départ. Vous savez ce que c'est ? C'est le regard de Jésus. Jésus l'ayant regardé, Jésus l'a regardé. Et à partir de ce regard, il a été carrément, dans cet appel qui a retenti ensuite, « Viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Ce regard et cet appel, cette voix qui retentit non seulement à ses oreilles, mais à son cœur, va faire en sorte qu'il va tout lâcher, incroyable, son entreprise, sa famille, son père, les employés, et suivre Jésus. Pierre, cet homme résolu, déterminé, tout entier, va donner, à partir de ce jour-là, le meilleur pour Jésus. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent donner le meilleur, le maximum ? Pierre a été de cette trempe-là, et nous aimons son caractère ardent, impulsif, fonceur, sûr de lui. Il prendra souvent des initiatives, il va se lancer en avant dans l'inconnu, sera souvent le premier à prendre la parole, à interroger le maître. Il aura une tendance qui va se marquer, une tendance de leader. Il va prendre le devant, il va prendre l'ascendant sur les autres, il va se positionner vite et il veut rapidement diriger aussi. Il est aussi un petit peu opportuniste. Il saisit les occasions et il se profile pour être vu et admiré par les gens. Il a un peu cette tendance, on voit tout ça dans les évangiles, on voit tout ça. Et en même temps, eh bien, il est influençable. En même temps, il est vacillant. En même temps, il est faible. Il répond mal aux attentes de Jésus. Il est bien plus fragile qu'il ne pense. C'est souvent ça. Les gens qui sont forts par devant ont des fragilités assez importantes à l'intérieur. Et Jésus veut justement, non pas nous mettre en lumière pour qu'on soit mal à l'aise et qu'on dise « Ah, c'est ça mes points faibles ». Mais Jésus voudrait, comme Pierre, nous transformer. Transformer. Et si Jésus a pu transformer un Pierre, il peut transformer n'importe qui d'entre nous. Par contre, c'est vrai, il est en tête de la liste des 12 apôtres. Il est toujours en tête. D'abord, c'est Pierre. Et la première chose que Jésus va faire après l'avoir appelé, il va changer son nom. Simon va devenir Pierre. Il sera d'abord Simon, bien sûr. Roc, Céphas, le rocher, homme transformé. Jésus, à partir d'une pierre brute, va faire une pierre de taille qu'il va positionner dans sa maison spirituelle comme pierre angulaire, comme pierre de base, fondement. Et le divin tailleur est aussi là aujourd'hui pour prendre des pierres brutes et les façonner tranquillement. Avec son matériau à lui, avec ses outils à lui, pour qu'on devienne des pierres vivantes, mises à leur place, utiles pour la construction du royaume de Dieu. Pierre a donc reconnu souvent ses faiblesses, il s'est laissé remettre en question. Nous savons bien sûr qu'il a chuté gravement en reniant son maître 3 fois. Il était tout de suite envahi d'une culpabilité incroyable, incroyable. À peine avait-il trahi son maître que déjà la culpabilité l'a tellement submergé qu'il ne pouvait faire que pleurer pendant tout le temps qui a suivi, jusqu'au moment où Jésus va le restaurer complètement. Et Jésus va le restaurer, nous en avons parlé il n'y a pas longtemps, restaurer au point que Jésus va lui confier son troupeau. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Pierre qui pensait que tout était par terre, tout était fichu, que son appel était terminé, Jésus va lui reconfier son appel, reconfirmer son appel, lui confier son troupeau. Avec Jésus, il n'y a jamais de point final. Tant que Jésus est là, tant que vous regardez à lui, tant que votre espérance n'est pas morte, tant que votre foi est là, même si elle est petite, eh bien, il y a de l'espérance pour le pire d'entre nous. Le pire. Et même ceux qui ont gravement chuté peuvent se relever. Si Jésus a pu reconfier son appel à Pierre, il peut aussi le faire aujourd'hui. Dans acte 2, c'est là que la transformation va avoir lieu. Dans acte 2, il y aura le Saint-Esprit qui va saisir les 120. Pierre fait partie des 120. Il va recevoir la puissance du Saint-Esprit et l'onction est tellement sur lui que ce sera lui qui aura le privilège de prêcher à Pentecôte. Et 3000 personnes vont se convertir convaincues de ce qu'il faut se repentir, se faire baptiser et recevoir le Saint-Esprit. 3000 conversions. Pierre va jouer un rôle primordial dans l'église primitive dans Jérusalem. Et puis, étrangement, dans acte 6, à partir d'acte 6, on ne parle presque plus de lui. La persécution a lieu à Jérusalem, tout le monde est dispersé aux quatre coins de l'Empire romain. Et on entend encore parler de lui à deux occasions. Dans acte 10, lorsque Pierre va être mis dans une situation qui le dépasse humainement, où il y a quelque chose de tellement fort en lui, il est juif de chez juif, il est fondamentaliste juif même, il tient à ses racines, à son identité, et Dieu va lui faire comprendre que tous les autres gens du monde ne sont pas impurs. Dieu les aime de la même manière. Il va devoir comprendre et il va recevoir ça par révélation que Pierre va dépasser son cadre juif et va devenir bénédiction pour les nations, les païens, les non-juifs. Et puis, nous lisons dans acte 12 que quand même, il est encore une cible dans la persécution. Jacques va être exécuté, Pierre va être mis en prison. Il sera libéré, vous vous souvenez, il sera libéré miraculeusement par un ange. Il va rentrer dans une maison où on prie et il va juste les saluer, puis il disparaît. Il disparaît parce que nous perdons sa trace. Pierre n'est plus vraiment utile. C'est plus vraiment son ministère. Paul a repris la suite. Les autres apôtres sont au travail. Il y a maintenant un changement. Pierre, qui était brillant au devant de la scène dans acte 2, plus tard, on perd sa trace complètement. On perd sa trace complètement. Et l'histoire est muette pendant les 20 dernières années de la vie de Pierre. Alors certains pensent que Pierre était principalement à Rome, qu'il a fondé l'église de Rome, hein, puisqu'il y a aujourd'hui la cathédrale Saint-Pierre, et qu'on pense que Pierre c'est le premier évêque, le premier apôtre de Rome, mais en fait ce n'est pas vrai, parce que Paul va écrire aux Romains, c'est dans l'année 58-59 du premier siècle que ça va se passer, et Pierre n'est pas là quand Paul écrit aux Romains, Pierre n'est pas là. Même quand Paul est en prison à Rome, un peu plus tard, en 63, Pierre n'est toujours pas là. Mais il va venir à Rome plus tard. C'est vrai. Il viendra à Rome, et c'est là que je vais venir dans l'introduction de la première lettre de Pierre. Il est à Rome dans un temps où l'Église vraiment connaît des persécutions fortes. Sous certains empereurs, l'Église chrétienne du premier siècle a été tantôt plus, tantôt moins persécutée, mais elle a été en général persécutée quand même, d'une manière ou d'une autre. Et Pierre va subir le temps de la persécution la plus intense qui sera sous l'empereur Néron. Et le rôle de Pierre, c'est qu'il va être à Rome d'une manière clandestine. Il va être à Rome de manière cachée. Il va être même sous un nom de code, apparemment. Et en fait, ses écrits, son écrit, qui n'est pas très long, 5 chapitres, et puis la deuxième lettre, elle est toute petite aussi, 3 chapitres, eh bien ces deux lettres vont être des lettres circulaires que les gens prenaient sous le manteau, essayaient de transporter clandestinement dans une église cachée, la lire une fois qu'ils l'avaient lue. Je ne sais pas s'ils faisaient une photo, s'ils faisaient une photocopie, à l'époque, je ne sais pas comment ils faisaient, mais le courrier passait plus loin, ou bien la lettre était passée à un autre qui courait dans d'autres églises, et elle était ainsi lue d'église en église dans les temps de la persécution. Pierre lui-même va à un moment donné être découvert et subira lui-même le martyr. Souvenez-vous que Jésus lui avait bien prédit ça. Dans Jean 21, il lui montrera qu'il mourra martyr. Et il va prendre à cœur cette mission de prendre soin des brebis, prendre soin des agneaux. Regardez comme il ouvre sa lettre. Il va dire, « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion. » Rien que la salutation de Pierre ou l'adresse à laquelle est adressée la lettre montre que Pierre est un homme transformé. Il était juif et chez Corneille se passe cette extraordinaire transformation dans son cœur. Il va être libéré de tout préjugé racial. Alléluia. Il va être libéré de tout ce qui va vraiment l'emprisonner dans son système religieux et judaïsant. Il est libéré de la xénophobie et il a une révélation que l'évangile est pour tous ceux qui sont élus et étrangers, ça veut dire immigrants par-ci par-là, dispersés dans l'ensemble du royaume. Si Pierre a pu être libéré de ça, frères et sœurs, de tout préjugé racial ou de pays ou de tribu ou d'ethnie ou de façon de vivre culturellement différent, si Pierre a pu passer par là, parce que Jésus va prendre Pierre, Paul était beaucoup plus instruit, il avait une ouverture, il était romain tout en étant juif, il était beaucoup plus ouvert et connaissait la multiculturalité, mais Pierre était enfermé dans son système. Mais Dieu va utiliser Pierre pour commencer à écrire à tous ceux qui sont élus et qui sont étrangers dans la dispersion. Est-ce qu'il y a ici des gens qui sont étrangers dans la dispersion? Si je vous demandais de lever la main, je pense qu'il y aurait beaucoup de mains qui se lèvent. Là où vous êtes, dans le pays où vous êtes accueillis, dans le pays dans lequel vous voyagez, Dieu vous dit ce matin, vous êtes élus, bien-aimés, dans la dispersion certes, mais vous avez accès à l'évangile, à la grâce de Dieu, aux bénéfices, aux bénédictions, à toute la parole de Dieu, à tout l'amour de Dieu. Il est pour vous là où vous êtes. Quelle que soit votre histoire culturelle ou autre, Dieu vous aime là où vous êtes. Et Pierre a compris cela. Dans la dispersion, vous êtes élus, vous êtes étrangers, mais j'aimerais vous dire, je vous aime. Pierre a compris ça, alors que lui était tellement étroit dans son esprit. Et je veux croire, frères et sœurs, que dans l'Église de Jésus-Christ, il y a encore des délivrances et des chaînes qui doivent tomber. Des chaînes de préjugés raciaux qui existent encore. Mais nous voulons être une église multiculturelle, vous savez, où tout ce genre de chaînes-là doit être cassé. Nous ne voulons pas être naïfs, mais nous voulons être chrétiens. Nous voulons être remplis de l'esprit d'amour de Dieu. Nous voulons nous accueillir comme Christ nous a accueillis. Nous voulons nous pardonner comme Christ nous a pardonnés. Nous voulons nous faire grâce comme Christ nous a fait grâce. Alors avec notre regard, avec notre sourire, notre poignée de main ou quelle que soit la façon de faire, accueillons-nous les uns les autres. Pierre nous en donne le ton ce matin. Pierre va, dans son cœur, je pense que dès l'origine, dès son appel, il avait dans son cœur, peut-être même avant, d'être une bénédiction pour les autres. Il voulait être une bénédiction et à un moment donné, regardez avec moi dans Luc 22, 32, Jésus va lui donner une prophétie, un appel supplémentaire. Il ne va pas seulement être pêcheur d'hommes, mais il va dire quelque chose de spécial que j'aimerais qu'on retienne. Et Pierre va cacher à Rome, circulant dans les catacombes peut-être, ou dans les endroits d'églises de maisons, etc., sous la pression des empereurs et des armées romaines qui circulaient dans toutes les rues et qui parfois faisaient irruption dans les églises pour arrêter les pasteurs, que sais-je. Pierre est là-dedans et il doit tout le temps se cacher. Et il a reçu cet appel de Jésus qui résonne encore en lui il y a longtemps en arrière. Vous savez, il y a longtemps en arrière, Dieu vous a dit des choses qu'il veut réactiver aujourd'hui. Réactiver aujourd'hui, réactiver aujourd'hui. Regardez avec moi dans Luc 22, 32, il est dit, « Quand tu seras converti, va fortifier tes frères. Quand tu seras revenu, converti, affermis tes frères, fortifie tes frères. » Mon frère, ma sœur, lorsque tu es converti, rempli du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu, alors ton mandat aussi, c'est d'affermir, d'encourager les frères. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Pierre veut simplement une bénédiction, il veut simplement être un élément d'encouragement dans un temps difficile. Il veut être un élément d'encouragement dans un temps difficile. Jésus lui avait dit cela avant son reniement. Il était encore faible, il était encore instable, il était encore avec son tempérament qui lui causait tantôt des problèmes, tantôt de l'admiration. Pierre était comme ça, mais Jésus lui avait déjà dit à l'époque, quand tu seras converti, parce que tu n'es pas encore Pierre, tu fonctionnes à ta façon humaine, tu fonctionnes avec ton moi en avant, tu fonctionnes avec ta nature charnelle, déjà je te dis, quand tu seras converti, alors tu seras une bénédiction, tu vas fortifier tes frères. Et Pierre va écrire des mots d'encouragement à tous les chrétiens dispersés donc dans l'Empire romain, où beaucoup sont dispersés. C'est quelques pages, c'est 4 pages. Comment est-ce que le Saint-Esprit va utiliser juste 4 pages? Aujourd'hui, on écrit des livres avec des centaines de pages, et je me demande quel impact ont ces livres, mais quand je vois l'Épître de Pierre, c'est juste 2 feuilles. Et depuis 2000 ans, ces 2 feuilles circulent dans le monde entier. À l'époque, dans l'Empire romain, parmi les églises clandestines, aujourd'hui dans le monde entier, 4 pages qui sont de bénédiction pour le monde entier, pour des millions et des millions de gens, juste parce que le Saint-Esprit a inspiré ses écrits, a utilisé la plume de Pierre pour être simplement un encouragement pour les autres chrétiens. Mon frère, ma sœur, tu peux aussi écrire quelque chose. Peut-être que dans 10, 20 ou 30 ans, on ne lira plus tes écrits, mais aujourd'hui, choisis de devenir une bénédiction pour quelqu'un. Choisis de devenir une bénédiction pour quelqu'un. Le Saint-Esprit a utilisé ce même message, ces mêmes mots, d'une manière différente pour toucher tantôt l'un, tantôt l'autre, d'une manière, tantôt d'une autre. Comme je crois que ce matin, il y a chaque culte, qu'une prédication peut rejoindre quelqu'un d'une manière et un autre d'une autre manière. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire cela. Nous lisons donc versets 3, 4 et 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, ça veut dire aussi nous a fait naître de nouveau, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Je vais encore une fois relire, c'est une phrase quand même intense. Je vais une fois encore juste relire ces 2 versets, 3 versets. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alléluia. Quelle parole de consolation et de réconfort pour ceux qui sont persécutés. Ils repensent. Pierre est là, il écrit cela, il repense au jour de Jérusalem, l'effusion du Saint-Esprit, les gens qui venaient de partout, le bruit du Saint-Esprit est arrivé, le vent qui est arrivé, a attiré le monde et les gens sont là, agglutinés les uns à côté des autres pour recevoir la parole. Qu'est-ce qui se passe? Et Pierre donne le message, tout le monde est touché et en même temps il s'avance pour le salut, pour le baptême, etc. Mais maintenant, ils sont dispersés partout. Pierre aussi est parti. Beaucoup ont laissé leur terre natale, leur maison, leur famille. Ils ont dû fuir peut-être sous la pression des gouverneurs régionaux ou de l'empereur même qui avait donné des lois contre les chrétiens. Pierre également est loin de sa terre natale. Il n'est plus chez lui, il est loin de ses filets de pêche, il est loin de son lac, il est loin là à Rome, dans cette grande capitale cachée. Mais son cœur est avec tous les frères dispersés. Sa situation n'est pas confortable, mais il écrit quelque chose d'inspiré. Écoutez, Vous n'avez pas besoin d'être toujours dans la meilleure des situations possibles pour commencer à faire quelque chose pour Dieu. Dans la situation dans laquelle vous êtes, faites quelque chose pour Dieu. Vous savez que plusieurs lettres ont été écrites dans une prison sombre et noire et humide par Paul. Plusieurs de ces lettres de la captivité ont été inspirées alors que Paul n'était pas dans le confort ou les meilleures situations pour écrire et être inspiré. Tu peux être inspiré même si tu es dans une situation difficile. N'attends pas d'être quelques jours, un jour mieux loti, d'avoir une belle maison, d'avoir des vacances. Là, tu peux te reposer, tranquillement écrire. Là où tu es, si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu es proche de Jésus, le Seigneur ne perd pas une seconde pour t'utiliser. Il faut saisir l'occasion. Il faut saisir l'occasion et entrer dans ce qui est prévu. Donc Pierre, dans ces conditions, loin de chez lui, loin de tout ce qu'il a aimé, eh bien, il est inspiré. Ce que je voudrais dire dans ces quelques minutes qui me restent, dans ce premier élan de l'apôtre Pierre pour les disperser dans l'Empire romain, c'est deux choses. L'apôtre Pierre va commencer. Il dit, je m'adresse à des gens qui sont partout. L'épître va circuler à droite, à gauche. Les gens sont tantôt un peu plus libres, tantôt ils ne sont pas du tout libres. Tantôt ils sont dans la souffrance, tantôt ils sont dans la captivité même. Tantôt ils sont dans le dénuement, dans la privation, dans les manques. Et ce que l'apôtre Pierre va dire, j'aimerais qu'on le retienne ce matin. Avant de penser à ce qui ne va pas dans ta vie, avant de penser tout ce qui te manque et de tout ce dont tu es privé, tout ce que tu n'arrives pas à avoir, tout ce à quoi tu ne peux pas accéder aujourd'hui. Avant tout ça, Pierre est en train de s'adresser à ces gens-là comme je m'adresse à vous qui peut-être réalisez votre manque, les choses auxquelles vous n'arrivez pas à atteindre, ces choses qui vous échappent en ce moment. Pierre va dire une chose, tu ne dois jamais oublier ton héritage. Avant de penser à tout ce qui est difficile, pense à tout ce qui t'attend là-haut. Sois d'abord rempli de la bénédiction que Dieu tient en réserve pour toi. Pense et sois rempli de tout l'héritage que Jésus est en train de te mettre de côté dans le ciel et qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni dévaluer, ni être pris dans les voleurs. Il ne va pas y avoir un crash boursier dans ce ciel. Personne ne va te prendre quelque chose, ça ne va pas perdre de sa valeur, tu vas le garder, ce sera propre, pur pour toi, réservé dans les cieux pour toi. Pense à tout ce qui est en réserve par Christ pour toi maintenant. Et Pierre veut dire à tous ceux qui l'écoutent, tu es mieux loti que les millionnaires et les milliardaires, car eux peuvent tout cracher en peu de temps, tandis que ce que toi tu as en réserve, personne ne peut le toucher, c'est pour toi, c'est ton héritage, tu es riche mon frère, ma sœur, alléluia, tu es riche. Moïse, il nous a dit que Moïse avait cette même perspective, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hébreux 11, 26. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et en même temps, il devait passer par le désert. Il devait confronter Pharaon, il devait avoir des choses difficiles, mais il avait les yeux fixés. Et ce matin, ayez votre cœur, vos yeux fixés sur la rémunération, sur l'héritage. Première parole, rappelez-vous que vous avez des privilèges. Ne perdez pas de vue votre héritage. C'est vrai que d'un côté, je souffre et je crie au Seigneur, je gémis. De l'autre côté, Seigneur, merci pour l'héritage qui m'est garanti. Seigneur, j'ai une garantie. Je suis scellé du Saint-Esprit, j'ai une garantie. La compte m'a été donnée déjà ici-bas par ta présence et le reste m'est réservé. J'ai un héritage. Même si je manque cruellement sur cette terre, je pleure encore de beaucoup de choses, il me manque, mes parents me manquent, mes enfants me manquent, mon pays me manque, ma langue me manque. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent, mais j'ai un héritage. J'ai un héritage. Je me réjouis. Frères et sœurs, je voudrais que en sortant de ce culte, vous ayez tous, sans exception, un sourire aux lèvres. Pas parce que c'est un beau dimanche et que les frères et sœurs sont super sympas, mais parce qu'avant tout, il y a un héritage qui est en vous. J'aimerais que le Saint-Esprit imprime votre héritage dans votre esprit et que vous ne l'oubliez plus jamais. Alléluia! Plus jamais. plus jamais. L'héritage assuré, gardé, sécurisé et garanti dans les cieux. Vous n'êtes plus esclaves, mes fils. Si tu es fils, tu es héritier. Héritier par la grâce de Dieu. Romains 8, 17 nous dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si tu es enfant de Dieu, si tu es fille de Dieu, fils de Dieu, tu es héritier. Tu es héritier. Tu n'es pas héritier parce que tu t'imagines que tu vas avoir quelque chose. Tu es héritier parce que Jésus t'assure en disant, si tu es mon enfant, je le suis Seigneur. Si tu es mon fils, je le suis Seigneur. Alors je te garantis mon héritage. Tu es mon frère et moi j'hérite et tu as part à mon héritage. Tu es donc co-héritier de Christ. Verset 6 nous dit, après avoir dit cela, que nous avons un héritage, il dit au verset 6, vous en tressaillez d'allégresse. C'est pour ça que je vous dis, il faut que nous puissions avoir la joie de l'héritage. La joie. Le chrétien doit avoir la joie. Rien que pour ça. Même si tu as 20 000 choses dans ta vie qui ne marchent pas, garde la joie de l'héritage, ton héritage. Bien sûr, nous pensons pas seulement à nous, c'est pas moi et mon héritage. Nous pensons à ceux... Alors nous pouvons dans notre cœur, en même temps, rire et pleurer, n'est-ce pas vrai? Parfois, nous faisons les deux choses en même temps. Je peux me réjouir du salut, je me réjouis du ciel, je me réjouis de tout ce que le Seigneur a pour moi et de tout ce qui m'attend encore. Et en même temps, je pleure des souffrances des autres, des peines, des manques, de toutes ces choses qui ne sont pas encore comme je le désire, comme Dieu le désire. Et je suis dans les deux situations en même temps. Mais rien ne m'enlèvera la joie de mon salut. La joie de Dieu est une force. Frères et sœurs, le voleur veut te voler vraiment ces choses-là. Parce que si tu te prives de la joie, qu'est-ce qui te reste en définitive? Qu'est-ce qui nous reste? Si nous pouvons avoir les meilleures choses matérielles, si nous n'avons pas la joie et la paix, nous sommes pauvres. Nous sommes vraiment pauvres. La joie et la paix de Dieu, en toute situation, en toute circonstance, c'est un cadeau incommensurable. Nous avons un si grand salut. L'apôtre Paul va dire dans Romains 8, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hommes, ni les anges, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur ne peut me séparer de Christ. J'ai cette assurance. Est-ce que vous avez cette assurance que ces choses sont pour vous et que rien ne peut vous séparer, même les épreuves, même les coups durs, même les tentations, même les doutes, car Dieu nous tient dans sa main. Il est dit que vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu, par votre foi. Le Seigneur soutient ta foi et sa puissance te gardera de fléchir. La deuxième chose donc qu'il va dire, d'abord il dit, on est tous à la même enseigne à peu près, je suis clandestin, vous êtes partout dispersés, on n'est pas chez nous ici sur cette terre, on est sous la férule du royaume et de l'empire romain qui n'est pas chrétien. Notre royaume est ailleurs. D'abord, réjouissez-vous. Ensuite, il va dire, verset 6, « Quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves. » Est-ce qu'on peut dire ensemble, « Pour un peu de temps, pour un peu de temps, » et disons ensemble encore, « puisqu'il le faut, pour un peu de temps, » puisqu'il le faut. Ça veut dire que les épreuves, les souffrances, les privations, les manques et toutes ces choses sont là pour un peu de temps. Mais Seigneur, j'ai mal et quand on a mal, ça dure longtemps, n'est-ce pas? Quand vous avez mal, quelque part, chaque minute est longue. Elle n'en finit pas. Et pourtant, le Seigneur dit, pour un peu de temps. N'oublions jamais la perspective de l'héritage et de l'éternité. Le temps ici-bas, c'est ça. L'éternité, c'est tout le reste. Le peu de temps dans le regard de Dieu est là pour nous encourager qu'il y a une limite, il y a une limite à toute épreuve. L'épreuve est toujours pour un temps donné. Dans le ciel, il n'y aura plus d'épreuve, ni de souffrance, ni deuil, ni larmes, ni cris. Alléluia. Pour un peu de temps, et puisqu'il le faut, ça fait partie du plan de Dieu. Ne dites pas toujours cette épreuve, c'est une attaque du diable. Cette épreuve, c'est une opposition démoniaque. Cette épreuve, c'est un coup du malin. Ça peut être le cas. Mais parfois, il le faut. Est-ce que Job a compris pourquoi il devait passer par où il passait ? Même à la fin, quand il a une révélation de Dieu, il ne comprend pas plus encore pourquoi il a dû passer par là. Il a juste une révélation supplémentaire de qui est Dieu, oui. Et ça lui a suffi pour rebondir alors qu'il est dans la résilience incroyable pour repartir. Et je vous dis ce matin qu'il y en a ici qui ont une faculté de résilience. La résilience, c'est de pouvoir repartir après un crash, se relever après un traumatisme. Vous avez reçu cette résilience par le Saint-Esprit et par la force que Dieu vous a donnée déjà à l'origine. J'ai fait un petit message sur Internet là-dessus et je crois que ça concerne quelqu'un ce matin. Vous avez cette capacité de ne pas rester par terre ou de traîner par terre, mais de vous relever maintenant même, de vous relever parce que vous êtes gardé en la puissance de Dieu. Vous êtes gardé en la puissance de Dieu. Et puisqu'il le faut, maintenant, pour un peu de temps, vous êtes affligé. Vous êtes affligé, mais le Seigneur est là. L'épreuve de la foi est nécessaire. Quelque chose qui a de la valeur pour Dieu va passer par un test. Quelque chose qui a de la valeur sera testé. Si vous voulez augmenter la valeur de quelque chose, il faut que cette chose passe par des tests, par des épreuves, ce sont des tests. Et l'apôtre Pierre va dire, « Moi comme vous, dit-il, et je passe par les tests, afin que votre foi éprouvée, précieuse, précieuse. Ta foi, mon frère, ma sœur, est précieuse. » Même si tu dis, « Mais ma foi, bon, je ne sais pas trop où elle se situe. » Mais Dieu te dit, « Elle est précieuse. » Alléluia, elle est précieuse. Et parce qu'elle est précieuse, j'aimerais qu'elle devienne encore plus précieuse. Parce que les trois choses qui subsistent, c'est la foi, l'espérance et l'amour. La foi reste, elle passe le cap de l'éternité. Et ta foi aujourd'hui éprouvée aura l'héritage que tu recevras. Et la foi éprouvée, l'apôtre Pierre va utiliser l'image de ce qu'il va dire plus précieuse que l'or éprouvé par le feu. Il va utiliser l'image de la métallurgie, c'est-à-dire il y a un four dans lequel on jette le métal précieux. On le met là-dedans et puis ça chauffe, ça augmente. Est-ce que quelqu'un sait à quelle température va fondre l'or ? J'ai regardé ce matin sur, je ne me souvenais plus, je l'avais appris en son temps, 1948 degrés. Ça chauffe. Vous savez pourquoi ça chauffe ? Ça doit chauffer parce que l'or et tout autre métal précieux ne peut pas monter en carat comme ça. Il faut monter les carats en le purifiant, en le fusionnant. Il doit passer dans la fusion pour que les impuretés légères montent à la surface. On les racle et le métal devient pur, de plus en plus pur. Vous savez, il y a des choses profondes en nous qui ne partiront pas autrement. Écoutez bien, il y a des choses cachées en nous, des impuretés cachées en nous, qui j'aimerais que ça part autrement. J'aimerais qu'on puisse simplement l'essuyer, faire un lifting extérieur, que ça parte, une petite opération chirurgicale, que ça parte. Non, ce n'est pas possible. C'est en moi. Et la seule manière, c'est que je passe dans le four. J'aime pas ça, Seigneur, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas. Ça chauffe trop. Mais Dieu nous dit ceci. Je reste en contrôle de ton four. Je suis en contrôle de la température, c'est moi qui manipule le thermostat et c'est moi qui définis la température que tu peux supporter. Et Dieu ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Alléluia. Au-delà de tes forces, non. Et une fois que Dieu, dans son amour, qui est attentif à ce four et à l'épreuve que nous passons, il mesure la température et les impuretés sont en train de monter à la surface. Ils sont enlevés, le métal précieux devient de plus en plus haut, en carat. Eh bien, à ce moment-là, ma foi éprouvée se trouvera être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lorsque Jésus reviendra. Alléluia. Ma foi, elle doit passer par l'épreuve. elle doit passer par l'épreuve. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer ou creuser mes reins et mon cœur. Psaume 26, verset 2. Son projet, c'est notre sanctification, afin que nous puissions ressembler à son image. Il paraît que dans la métallurgie ancienne, qui se faisait à peu près au ciel, à ciel ouvert, eh bien, le métallurgiste, celui qui travaillait l'or, en allemand on dit Goldschmied, ça veut dire celui qui forge l'or, il regardait au travers d'une vitre, et lorsqu'il voyait sa propre image dans l'or, en fusion, c'est que c'était bon, c'est que l'opération était réussie. Lorsque le Seigneur voit son image en vous, l'opération réussit. Lorsqu'il voit l'image de Christ en vous, c'est là que c'est bon. Alléluia. Le Seigneur veut justement que cette expérience de l'épreuve dans le four nous rende semblables à l'image exemplaire, l'exemplaire unique, l'image de Jésus. L'apôtre Paul va dire, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Psaume 66, tu nous as éprouvés, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais, tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance, j'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. Psaume 66, verset 10 et suivant. Alléluia. Je termine. La foi, pour qu'elle ait de la valeur, doit être éprouvée. Et les chrétiens devaient réaliser que l'épreuve qui est là, souffrances qui sont là, les manques qui sont là, toutes ces choses qui sont bel et bien présentes, ce sont des réalités. Et j'aime le dire, c'est le frère chinois, frère Yun, qui m'a fait comprendre cela. Et lui qui a vécu exactement ces choses-là dans ses prisons en Chine, où il a été incarcéré longtemps, il a dit, il faut placer les vérités au-dessus des réalités. Ça veut dire, la vérité de la parole, de mon héritage, de la main de Dieu, du Dieu qui contrôle toutes choses, de la présence de Dieu, des assurances, des promesses, le oui et amen de la parole, doit être maintenu au-dessus des réalités bien concrètes, qui me font souffrir et qui me posent un casse-tête, qui me posent problème. Je place la vérité au-dessus. La réalité prend acte de ce qui ne va pas. La vérité prend acte de la parole de Dieu. La réalité crie, les faits sont là, tu ne peux rien changer. Tu ne changeras ni ton mari ni ta femme. Ta cause est désespérée, ton cœur est brisé et tu resteras brisé. La foi dit, mes oreilles entendent la réalité, mes yeux voient la réalité de l'esprit, la parole de Dieu, la parole de Jésus. Pour lui, il ne tient pas compte de la réalité. Il est déjà en route pour me donner l'effet de sa vérité. Il y aura un exemple à donner, mais le temps me manque ce matin. Je vous le donnerai la prochaine fois. Vous retrouvez dans la Bible vous-même l'exemple de Jaïrus qui reçoit une mauvaise nouvelle. Il dit, Seigneur, mon enfant est en train de mourir. Jésus se met en route, mais il est arrêté par une autre situation qui prend du temps. Et ensuite, Jaïrus continue, Jésus continue avec lui. Voilà qu'arrive une mauvaise nouvelle à son encontre. Ton enfant est mort, arrête, terminé. Et il est dit dans Marc, chapitre 5, écoutez ça, et notez-le, je termine. Marc 5, 36. Il est dit, j'ai souligné cette parole dans ma Bible, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, qui veut dire, c'est trop tard, reste. C'est terminé, Jésus ne fera plus rien. Jésus dit, sans tenir compte de ses paroles, il dit à Jaïrus, ne crains pas, crois seulement. Ça, c'est placer la vérité au-dessus des réalités. Retenez ça ce matin, frères et sœurs. Vous êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi. Retenez deux choses ce matin. Pierre, qui donne d'abord l'image de la vérité, de l'héritage. Il ne parle pas des souffrances d'abord, il va parler des souffrances après. Mais d'abord, l'héritage, la joie, ton acquis en Christ. Et ensuite, l'épreuve, tu dois passer par là, pour un peu de temps. Il le faut. Le four va chauffer pour ta purification, ta sanctification. Et après, le Seigneur va t'utiliser puissamment. Amen.